mais nous allons nous pencher un moment dans la présence de Dieu sur le psaume numéro 1. Le psaume 1. Nous sommes en train de regarder certains des psaumes, et pas dans un ordre quelconque. Nous prenons ici et là, et nous voulons apprendre à chanter ces chants dans notre vie, que ça fasse partie de nous. Mais il faut les comprendre. Nous allons lire donc le psaume 1, qui est très court et pas difficile à comprendre. Deux destins, deux voies et deux choix. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est court comme description. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène destin à la perdition. Nous allons essayer de comprendre pour chacun de nous trois choses simples ce matin. Et la première, c'est tout simplement ceci. Comme tous les hommes, tu vas vers un destin, un des deux destins, terriblement opposés. Nous voyons ces deux destins dans le psaume, n'est-ce pas? Vous avez vu deux destins? Vous avez remarqué qu'il est parlé de destin, de finalité, qu'on va aboutir quelque part et rester là. Il y a, à la fin de ce psaume, que le méchant ne résiste pas au jour du jugement et que la voie des pécheurs mène à la perdition. Il y a aussi, un peu plus subtilement dans le passage, le fait que les justes sont comme un arbre qui n'est pas emporté par le vent, mais qui reste là, qui semble être stable pour toujours. Et on parle de la communauté des justes dans laquelle les méchants seront enlevés. Deux destins. Nous le savons bien, je ne vous apprends rien de nouveau. Peut-être cette pensée ne vous est jamais venue dans la tête quand même, que ce que Dieu va faire au jour du jugement, selon ce psaume, c'est simplement rendre permanent une division spirituelle qui existe déjà sur la terre. Il y a ceux qui aiment la loi de l'Éternel, qui prennent plaisir, ça c'est leur vie. Il y a ceux qui aiment le péché, et ça c'est leur vie et leur plaisir. Et c'est très différent sur la terre, n'est-ce pas? C'est deux sortes de personnes. Et un jour, Dieu va rendre permanent la division entre les deux. Et il n'y a rien de plus important pour toi que de comprendre cela et de t'y préparer. Deuxième point. Pas seulement deux destins, mais deux voies. Alors, vous demandez, pasteur, deux voies, qu'est-ce que vous voulez dire? Voie, V-O-I-X, voie. Ou bien voie, V-O-I-E, voie. Je veux dire les deux. Parce qu'il y a deux voies qui vous appellent à aller sur deux voies. Et nous voyons cela dans le psaume. Alors, réfléchissez avec moi un moment. Regardez d'abord la première voix qui vous parle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants. La voix qui te dit, viens par ici. Et une autre voix, on le trouve ici, mais lui, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En fait, le mot, c'est Torah, c'est l'instruction, c'est la voix de Dieu qui instruit, qui dit, viens par ici. Maintenant, vous savez comme moi que ces deux voix vous parlent constamment. Tous les jours, par exemple, par les médias, par les livres que vous lisez, par la voix des amis, des copains, des collègues, par les cours que vous suivez à l'école, il y a une des deux voix qui vous parle et qui vous tiraille. Vous êtes tiraillé, vous êtes appelé ici, non ici, par ceci, il faut penser comme cela, il faut agir comme ceci, non comme cela. Voilà. Le vrai plaisir, c'est ici, non, c'est là. Le bonheur, c'est ici. Ceci est vrai, non, c'est faux. Constamment, vous entendez deux sons de cloche très différents, n'est-ce pas? Et la vie va continuer comme ça, dit le psaume, jusqu'à la fin, où Dieu va rendre permanent cette division. Et vous comprenez bien que pour dire oui à une de ces voix qui vous parle, forcément vous allez dire non à l'autre. Mais peut-être que vous ne comprenez pas ça. Mais nous verrons dans le psaume tout à l'heure que c'est essentiel de le voir. Maintenant nous arrivons au troisième point, dernier point. Mais le point est beaucoup plus long parce que c'est là le cœur du psaume. Deux destins, deux voix, et maintenant deux choix. Quand ces deux voix vous parlent, vous allez faire un choix par rapport à l'une et par rapport à l'autre. Vous allez faire deux choix. Vous allez dire oui à quelque chose et vous allez dire non à quelque chose. Et nous voulons comprendre maintenant que Dieu veut vous pousser aujourd'hui, que vous soyez non-chrétien ou chrétien. Si vous êtes chrétien, vous devez continuer cette démarche. Mais pour devenir enfant de Dieu, vous devez apprendre à dire ce non et ce oui. Donc, nous allons essayer de voir ça. La première chose, c'est qu'une vie bénie et heureuse exige que tu dises non à la voix du péché. Regardez le verset 1. Heureux, 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 l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui dit non lorsque ce conseil lui vient, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Maintenant, si vous avez fait très attention, vous avez vu une petite progression là, n'est-ce pas? D'abord, on a marché, ensuite s'arrêter, et ensuite s'asseoir. Ça devient de plus en plus ancré dans une position, n'est-ce pas? D'abord, on est en train de marcher sur une voie, on peut toujours le quitter, et puis on s'arrête sur cette voie. Et ensuite, on s'assoit carrément sur cette voie. Alors, c'est exactement ce que le monde veut que nous fassions, et nous devons répondre à tout cela. Alors, quel est le conseil des méchants? Alors, ça dépend d'où vous êtes, parce que le livre qui vous embarque sur la voie de la perdition, il y a beaucoup de voies dedans et beaucoup de chapitres. Ça varie de pays en pays. Mais on est en France, on va parler de la France. La forme dans laquelle ça nous vient souvent ici, c'est par exemple le relativisme. Ça, c'est une forme de pensée, une voix qui vient et qui vous dit à chacun sa route, à chacun son chemin. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas très mauvais si on choisit une assurance ou un fromage, mais c'est très mauvais et très faux si on vous dit à l'école à chacun de penser comme il veut pour savoir si on a été créé ou si on est tombé là par hasard. C'est très très mauvais si on vous dit à chacun sa vérité quant à la vraie raison d'être, pourquoi vous êtes là, pourquoi est-ce que vous vivez, à chacun de décider pour soi. C'est très, très, très mauvais. C'est la voie de la perdition. Dieu vous parle et il vous dit la vérité. Je vous ai fait pour moi-même. Venez par là. Il y a aussi la voix qui vous parle de l'image. Alors, cette voix, c'est le culte de l'image qui vous dit ce qui est important, c'est l'extérieur, c'est la beauté, c'est l'apparence. Et maintenant, il y a des jeunes et des pas très jeunes qui sont complètement formatés dans leur vie, ce qui les intéresse par ça. Le maquillage et les vêtements de marque et des opérations parfois pour changer la taille de quelque chose, n'est-ce pas? Que ce qui est important pour l'homme, pour la femme ou pour le jeune, c'est mon apparence. Et cette voix est très, très, très forte dans le pays de la haute culture. Couture, pardon. N'est-ce pas? Cette voix, constamment, essaie de vous embarquer sur cette voix qui vous dit cela. Mais la voix de Dieu vous dit exactement le contraire. Vous pouvez être aussi belle que, mettez le nom que vous voulez, mais aussi dégoûtant dans votre caractère qu'un diable. Et Dieu vous dit qu'il regarde le cœur. Le cœur. Qu'est-ce que vous êtes dans le cœur? Est-ce que vous êtes mécontent? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est habituellement mécontent, grognon, fâché, ou bien dominateur, ou bien inquiet, ou bien convoiteur, ou... Voilà, c'est ce qui est dans le cœur qui compte, dit cette autre voix. Il y a aussi une voix qui vous dit, ce qui compte, c'est le pouvoir. C'est être le premier, c'est s'imposer aux autres, c'est réussir, c'est grimper l'échelle, c'est être quelqu'un, c'est être important. Parce que si je suis important, ça veut dire que les autres sont en dessous de moi. Et il y a des voix qui vous disent cela. Mais Dieu vous dit exactement le contraire. Il dit, c'est à moi qu'appartient toute gloire. Toute gloire. Toute importance. Il y a aussi une voix qui vous parle et qui vous dit, c'est la voix de l'égocentrisme. Et cette voix, on l'entend quand on regarde la télé et la femme nous dit, je le vaux bien. Je le vaux bien. Et dans la France aujourd'hui, il y a toute une culture de la louange de l'égocentrisme. On défend maintenant des comportements parce que c'est égocentrique et c'est ça, c'est bien. J'ai besoin de me valoriser. J'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Je n'irai pas bien si je reste avec mes petits-enfants à la maison. J'ai besoin d'aller travailler, bien qu'ils soient petits et qu'ils aient besoin de moi, parce que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Sinon, ça va aller mal pour moi. Or, la voix de Dieu vous dit que la vraie vie, vous allez découvrir dans le sacrifice de soi. Vous allez découvrir quelque chose de formidable. Alors ça, c'est la voie de l'égoïsme. Ensuite, il y a la voie le culte du confort personnel. C'est très fort dans la France et en Occident. Et cette voie vous dit, ce qui doit diriger ta vie, hein, c'est d'éviter à tout prix la souffrance. Donc, planifie ta vie. Prends tes décisions en fonction de ce seul critère. Évite toute souffrance. Fais en sorte que tu as le plus de confort possible. Et la voix de Dieu vous dit, ah ça, c'est la mort de l'amour. Ça, c'est la mort de l'amour. Parce que aimer, c'est souffrir pour l'autre. Très souvent, n'est-ce pas? Si je cherche mon confort personnel, je ne vais jamais aimer profondément. Il y a une autre voie, c'est la voie du culte de l'immédiat, de ce qui vient tout de suite et ce qui doit m'arriver tout de suite. Alors, donc c'est cette voie qui vous dit, non, vous n'avez pas besoin de persévérer, d'être patient. Tu peux l'avoir tout de suite. Va à la loterie. La richesse tout de suite. Achète de la crème de bronzage. Tu es bronzé tout de suite. N'est-ce pas? Et que ce soit une chose banale comme le bronzage ou une chose un peu plus importante comme les biens matériels, on vous pousse à une éthique de l'immédiat qui tue la vie. Parce que la Bible et la voix de Dieu vous dit que c'est dans la persévérance de l'espérance qu'on trouve le bonheur. La persévérance et la patience. Ça vaut pour la vie chrétienne, ça va pour tout. Le mariage, chercher des amis, développer des amitiés, réussir dans le boulot. Ça va pour tout, parce que nous nous attendons à la providence de Dieu. Ensuite, et dernièrement, et il y en a d'autres, mais nous n'aurons pas le temps, il y a aussi cette voix qui vous sollicite de venir sur, de vivre par le culte de la sexualité. Et ça aussi, dans la France aujourd'hui, on ne peut pas passer une journée si on marche en dehors de sa maison, pratiquement, sans être sollicité par cette voix-là. Et attention, ça affecte le monde chrétien comme le monde non-chrétien. Voilà une dame que je connais en France, une dame dans une très bonne église, famille chrétienne, et sa fille, qui est maintenant grande, est devenue complètement mondaine. Maintenant, il peut y avoir beaucoup de raisons pour cela. Même la fille d'une maman qui est très bonne peut le devenir, nous savons. Il n'y a pas de baguette magique pour que les enfants suivent le Seigneur. Mais, attention, cette dame-là, cette maman, elle a eu l'habitude de vivre tous les jours dans les romans romantique. Sa vie tournait autour des romans de romance. Est-il étonnant que sa fille devienne obsédée par cela? Eh bien, voilà le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cette voix constante qui vous dit: c'est par ici le vrai bonheur, le vrai sens. Mais nous voyons que le monde ne nous propose pas simplement des conseils, il nous propose aussi des chemins. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Un chemin, c'est quoi? Un chemin, c'est une voie pour arriver quelque part. Et on y reste, c'est quelque part, on y reste un temps, n'est-ce pas? Le monde nous propose donc des activités, des manières de vivre, des préoccupations sur lesquelles on peut s'y mettre et vivre. Et donc ce sont des chemins où on développe des habitudes, n'est-ce pas? Et cette personne est allé un peu plus loin, c'est pas simplement le conseil qu'il a écouté, il s'est arrêté sur le chemin. C'est-à-dire, si tu veux le trouver, tu peux le trouver, parce qu'il s'est arrêté sur un chemin bien donné. Il est là, c'est son adresse, c'est son habitude. Il a l'habitude, va à la boîte de nuit, tu vas le trouver là, j'en suis sûr, le week-end. Parce qu'il s'est arrêté sur ce chemin, c'est son chemin maintenant. Et donc, attention à vous et moi, si nous développons des habitudes qui mènent à la voie de perdition. Et ensuite, Le plus grave, c'est qu'il ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Maintenant, voilà une personne qui a écouté le conseil de ceux qui ne donnent pas hommage à Dieu, jusqu'au point où il a emprunté le chemin des méchants, et maintenant il est carrément assis comme un juge sur un banc. C'est-à-dire, il est bien installé. Il est sur le banc, et il voit les gens passer sur la voie des justes, la voie de Dieu, et il se moque. Ah, vous croyez en Dieu? Quelle ânerie! Quelle bêtise! Ah, vous croyez dans le péché? Mais ça, c'est une croyance de dinosaure! Et puis, il va aller fermer sa clé à porte après. Mais peu importe. Donc, ça mène très souvent là. Pas toujours, c'est pas tout le monde qui a le courage d'être un moqueur, mais voilà la voie, que vous le fassiez en dehors ou à au-dedans, le pécheur devient le moqueur. Maintenant, ayant montré à quoi ou envers quoi il faut dire non, 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 non. Pour devenir chrétien ou pour grandir en tant que chrétien, il faut constamment dire non. Hein, c'est le sens de cette première partie, heureux l'homme qui ne. Vous ne pouvez pas avancer spirituellement et dire oui à Dieu sans en même temps constamment refuser courageusement et par la foi ce qui vient du conseil des pécheurs. Donc, attention les jeunes, vous devez développer cette habitude par la grâce de Dieu si vous êtes croyant. Ou vous devez devenir croyant en venant à cela, en Christ, de dire non, 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 non à ce conseil qui mène à la perdition. Mais ça ne suffit pas, un non, il faut un oui aussi. Et nous le voyons dans le verset 2. Donc, heureux l'homme qui ne fait pas tout cela, mais, le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Et nous allons terminer juste rapidement avec cela. La personne qui va vers la vie éternelle, c'est la personne qui dit non à une voix qui lui parle, mais qui dit oui de tout son cœur à la voix de Dieu qui lui parle par sa parole. Maintenant, comme j'ai dit, la loi ici, ça signifie instruction. Ok? On pourrait dire, je dis ça parce que vous pouvez avoir l'impression que heureux l'homme qui trouve son plaisir dans les commandements uniquement. C'est plus que ça. Le Torah, c'est l'instruction tout entière de Dieu avec ses promesses, avec ses commandements, avec ses conseils, avec sa sagesse, tout ce que Dieu vous dit. Heureux l'homme ou la femme qui prend plaisir à cette instruction, cette voix de l'Éternel qui lui parle. Maintenant, attention. À la base, si vous voulez réduire ça, distiller ça, la voix du monde ou du péché, la voix de Dieu vous disent la même chose. Pas le même contenu, mais la même phrase. Le contenu est différent derrière. Mais la phrase dit ceci. Venez par ici, soyez comme nous. Est-ce que c'est pas ce que les copains disent à l'école, les jeunes? Faites ce que nous faisons, soyez comme nous. Ou bien dans le voisinage, faites ce que nous faisons, soyez comme nous. Ou bien au travail, le monde vous dit, rejoignez-nous. Soyez comme nous. Et Dieu dit, rejoins-moi, soyez comme moi. C'est ça le contenu de la loi de l'Éternel, l'instruction pour rejoindre Dieu dans sa volonté, dans son royaume, dans son éternité et être comme Dieu. Dans notre caractère et dans notre pensée. Donc, lorsque l'homme trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, pourquoi est-ce qu'il trouve tant de plaisir? Voilà George Müller, cet homme de Dieu, qui descend de sa chambre un matin, dit son biographe, pour le petit déjeuner, et il annonce « Je viens de finir de lire la Bible pour la 100e fois. » En entier. Voilà un homme qui, d'ailleurs, un homme qui était formidable. Il a fondé des orphelinats, il a sauvé des milliers d'enfants à Bristol et ailleurs en Angleterre. Un homme plein de foi, plein de confiance, une relation très proche avec Dieu, qui prêchait, qui amenait des gens à découvrir le pardon et la vie éternelle et la grâce, qui vivait pour des choses importantes et éternelles, qui connaissait son Dieu et qui l'aimait. Ça, c'est formidable. Mais c'était un homme avant tout qui prenait plaisir à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui dit sur lui-même, sur la vie éternelle, sur le royaume glorieux de Dieu, le plan de Dieu pour former un royaume des élus, un peuple, dans sa présence glorieuse pour toujours. Cette loi de l'Éternel qui me parle de moi, qui me dit ce qui ne va pas, qui pénètre, qui jette sa lumière, et là je comprends ce que je suis, mes problèmes, mon péché. Et cette parole qui révèle le Sauveur et la voie du salut, sa mort, sa vie, sa justice, sa substitution, son paiement complet du péché, sa résurrection, sa victoire sur la mort, son retour glorieux pour juger les vivants et les morts. Et tant d'autres merveilles. Des merveilles, c'est un livre qui est rempli de merveilles, la Bible, franchement. Son sujet est glorieux. Son contenu est glorieux. Ses promesses, ses commandements, sa sagesse est merveilleuse. Ça dépasse tout ce qui est humain. Et voilà pourquoi cet homme prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais il faut savoir que bien que la parole de Dieu soit tellement merveilleuse, c'est pas tout le monde qui y prend plaisir. Même les gens qui ont la Bible sur leur table de chevet, et même les gens qui entendent la Bible tous les jours dans leur famille. C'est pas tout le monde qui prend plaisir à la Bible. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, c'est moi. Moi, normalement, je dois lire la Bible parce que je vis dans une famille chrétienne, mais je peux pas dire que je prends plaisir à ça. C'est là, je comprends, et on me dit qu'il faut prendre plaisir, mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent plaisir à la parole de Dieu? Pour qui c'est comme un trésor, c'est comme de l'or? Oui, c'est vrai. Les gens dans cette pièce peuvent vous témoigner, parce que certains ont été des deux côtés de la clôture. Ils connaissaient la Bible, mais ils ne l'aimaient pas. Et quelque chose leur est arrivé pour que dans leur cœur, ils ont commencé à prendre plaisir dans la parole de Dieu. Alors, avant de quitter, et là je vais finir maintenant, je veux juste vous appeler à réfléchir sur cela. Si vous êtes là et que vous savez que je ne suis pas la personne dans ce psaume, je ne suis pas celui qui prend plaisir à la loi de Dieu. Alors, vous n'êtes pas chrétien. Qui que vous soyez, quels que soient vos parents, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, c'est sûr. La Bible définit le croyant comme celui qui prend plaisir à la loi de Dieu. Et vous savez que vous ne pouvez rien faire pour commencer à prendre plaisir à la loi de Dieu. C'est impossible. C'est un changement de cœur très radical, tellement fondamental en vous, que vous ne pouvez pas créer un cœur en vous qui prend plaisir à la loi de Dieu plus que vous ne pouviez vous créer physiquement au début. Vous avez pu vous créer au début? Vous ne pouviez rien faire pour vous créer. Mais la Bible dit que ce cœur qui prend plaisir à la loi de Dieu, c'est une récréation. Et Dieu seul peut le faire. Dieu seul. Il est très important que vous compreniez ça. Et que vous désespériez de toute action simplement humaine de votre part pour essayer de faire semblant ou de changer votre cœur vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous mettre auprès des moyens que Dieu emploie pour changer le cœur des gens. Il faut venir au culte, il faut supplier Dieu de changer votre cœur par la prédication, par la méditation de la parole, dans la famille ou individuellement. Il faut demander à Dieu, change mon cœur. Et là, il faut vous exposer à tous les moyens que Dieu utilise pour travailler dans la vie de quelqu'un. Mais vraiment, avec cette dépendance que, oh, je vois mon cœur, je dois aimer la parole de Dieu, mais je ne l'aime pas. Je vois maintenant tellement pécheur que je suis, mon cœur est dur, j'arrive pas à le changer moi-même. Change-moi, Seigneur, je suis sur la voie de perdition. Pour finir, et on va continuer la semaine prochaine ce psaume, mais je vous fais juste remarquer que la personne qui est sur la voie de la vie éternelle, c'est pas simplement quelqu'un qui aime la parole dans son cœur, mais aussi qui médite la parole dans sa vie, de manière concrète. Regardez. Donc il est défini comme ça. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il médite la parole jour et nuit. Je vais vous parler de la méditation biblique dimanche prochain, Dieu voulant, mais je voudrais juste vous faire remarquer ceci, que la personne qui va devenir comme cet arbre fructueuse et stable, qui ne flétrit pas, c'est quelqu'un qui aime la parole, qui aime ce que Dieu lui dit, mais aussi qui médite la parole jour et nuit. C'est pas un visiteur occasionnel à la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui va lire la Bible de temps en temps. Tu ne peux pas devenir cette personne-là de cette manière. La Bible est claire, non? Et qui médite jour et nuit. Jour et nuit. La Bible n'est pas pour cette personne comme un musée. Un musée, on y va de temps en temps. D'accord? Pour voir ce qui est là. Mais si tu prends plaisir à ce que Dieu te dit, tu vas pas aller à la fréquence de musée. Tu vas pas aller de temps en temps. Ah ouais, il faut que j'ai pas lu la Bible depuis 2 semaines maintenant, il faut bien que je lise. C'est que tu n'y prends pas plaisir. Ou bien que ton cœur s'est refroidi. Il y a une rétrogradation, ou bien tu n'es pas né de nouveau, mais quelque chose en tout cas ne va pas. N'est-ce pas? L'homme qui prend plaisir à quelque chose veut faire cette chose. Et l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, dans ce que Dieu lui dit, médite jour et nuit. Le texte ne dit pas qu'il lit la parole jour et nuit. Hein? Il médite. Et la différence entre lecture et méditation est extrêmement grande. C'est la différence entre la personne qui prend un sachet de tisane et qui fait comme ça dans l'eau chaude et qui boit. Ou bien la personne qui trempe le sachet et qui boit. Qui va avoir le meilleur goût? La méditation, c'est pas juste la lecture. Je l'ai lu. Les paroles me sont passées sous les yeux. Mais la méditation, c'est de prendre cette parole, de réfléchir, de me l'appliquer, de creuser, de ruminer sur ce que Dieu me dit, dans tout son sens. Et voilà le chemin vers cette vie d'arbre fructueuse, et qui est stable, et qui ne flétrit pas. C'est la voie de la vie éternelle. Bien, nous allons nous arrêter là pour le moment, avec ces deux voies, ces deux destins et ces deux choix. Et ça nous concerne tous. On est toujours en train de côtoyer ces deux destins, ces deux voies, et de répondre par ces deux choix. Que Dieu nous aide par sa grâce en Christ à prendre plaisir à sa loi et à la méditer. Nous allons maintenant chanter pour nous préparer pour la scène. Le chant que vous avez sur l'affiche, au Christ.